passer quelques versets de ta parole et que tu nous prépares pour l'issue de cette retraite afin que nous puissions donner en finale une réponse à cette question qui est notre thème, qui a été annoncée. Peut-on attendre dans l'aujourd'hui de notre vie la venue du Seigneur pour les siens? Mais en attendant, nous voulons terminer cet épître aux Thessaloniciens. Donne grâce et captive nos cœurs ce soir par ton esprit. En Jésus. Amen. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous continuons donc notre étude de cette première épître de Paul aux Thessaloniciens, les 12 versets du chapitre 4, les 12 premiers versets. Et, je le souligne, c'est seulement après avoir étudié et repassé dans nos cœurs l'enseignement de toute cette épître que nous pourrons répondre à la fameuse question « Est-ce qu'on peut attendre la venue du Seigneur pour les siens dans l'aujourd'hui de notre vie ?» Alors, prenons ces versets. Vous les avez lus. Chapitre 4. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Alors, dans ce verset, je souligne ce que Paul a dit, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons plaire à Dieu? Est-ce que vous avez un verset qui est catégorique sur cette question de plaire à Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, si Paul leur dit qu'ils doivent plaire à Dieu et qu'il leur a enseigné de plaire à Dieu, de quoi leur a-t-il parlé? De la foi. Il les a enseignés dans la foi, et cela vous l'avez eu au chapitre premier. Et c'est une foi qui a produit des œuvres, la vraie foi. Non pas une foi morte, mais une foi vivante et agissante par l'amour. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, se conduire dans ce monde, où apprenez-vous à vous conduire? En suivant l'exemple du monde, la mode ou la parole de Dieu pour lui plaire? Mais vous voyez qu'il n'est pas négatif. En même temps, l'apôtre Paul a toujours Il a une pensée favorable. Voyons, un préjugé favorable. Il dit, c'est ce que vous faites. Il ne dit pas, non, vous manquez, mais c'est ce que vous faites. Il reconnaît qu'ils sont dans la bonne voie. Mais il ne veut pas qu'ils se croient des arrivés. Et c'est cela qui nous guette. On se croit arrivés. Non, nous ne sommes pas arrivés. Nous marchons, nous courons, et même l'apôtre Paul le dit de lui-même quand il écrit aux Philippiens, il leur dit, voyez-vous, tout ce que je désire, moi, c'est de le connaître, lui, le Seigneur. On dit, mais Paul, il y a si longtemps que tu le connais. Mais non, mais je veux le connaître encore, davantage, pour le connaître, lui. Et puis, il dit que il ne se considère pas comme un arrivé, il n'a pas encore obtenu le prix. Je lis dans Philippiens 3, il dit ceci, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » C'est beau. Voilà l'exemple de Paul. Et alors, il peut les enseigner. Je vous ai appris comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu. Et nous savons qu'il leur a prêché cette foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Mais il leur dit, c'est là ce que vous faites. Il ne les décourage pas. Et nous vous prions et nous vous conjurons. Mais vous voyez la force de ces paroles. Ce n'est pas seulement une prière, mais il les conjure au nom du Seigneur Jésus. C'est là son autorité. Il les conjure au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, donc dans leur conduite de progrès en progrès. Ne pensez pas, ben voilà, moi, j'y suis. Non, je veux, Seigneur Jésus, te suivre davantage, marcher davantage dans l'empreinte de tes pas, pour qu'on ne voit pas 1000 traces sur la poussière qui seraient mes traces, alors que j'ai à marcher dans les traces de qui ? Du Seigneur. Regarde ton chemin dans la vallée. Quelles ont été nos traces ? Est-ce que nous pouvons dire que notre vie a laissé les traces, les empreintes du Seigneur ? Nous n'avons pas à marcher dans d'autres empreintes que celles que le Seigneur a laissées. Mais si vous commencez avec toutes les marches du monde, vous n'êtes pas dans la marche du Seigneur, croyez-le. Alors, chaque verset doit vous parler. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. C'est quelque chose, hein. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part de qui ? C'est pas sorti du cœur de Paul. Il a parlé au nom du Seigneur Jésus. Et il n'y a que cela qui nous donne une autorité. Si je ne vous parle plus au nom du Seigneur Jésus, et si je ne prêchais plus uniquement la parole de Dieu, eh bien, il y a longtemps que ma femme aurait fait la piqûre. Elle est médecin, mais elle ne veut pas aller en prison. Mais je sais qu'elle me laisse partir, quel que soit mon état de santé, parce que le Seigneur le lui a fait comprendre, il y a plus de 33 ans, qu'elle ne m'empêcherait pas de servir le Seigneur, quel que soit mon état. Elle a eu des confirmations par d'autres hommes de Dieu qui ont voulu lui donner ce conseil. Je me souviens toujours d'un jour, d'un homme de 94 ans que j'aimais beaucoup, il était pasteur, et qui lui a dit, quand il a connu ma femme qui reprenait ma vie, avec les enfants que j'avais après le décès de ma première femme, eh bien, il lui a dit, il n'y a qu'une chose, cher ami, qui m'a fait un peu peur pour Gaston. Je suis tellement heureux qu'il ait eu de nouveau un foyer, mais c'est que vous êtes médecin. Il aurait dû se réjouir. Non, mais parce qu'il dit, vous savez, il n'a pas tellement de santé, et alors, je ne voudrais pas que vous l'empêchiez, à cause de sa santé, d'agir, de servir quand le Seigneur le lui montre. Vous savez ce qu'elle lui a répondu ? Le Seigneur me l'avait déjà dit. C'est beau cela, hein? Mais elle avait, elle aussi, la confirmation qu'elle pouvait faire confiance au Seigneur. Et voyez-vous, ce que le Seigneur m'a donné encore cette année au camp de Florence, qui était le 48e, la 48e année des camps, il m'a donné cette parole qui est vraiment merveilleuse et qui est dans le livre de Jérémie, qui est le chapitre de le livre de ma vocation. Eh bien, il m'a donné cette parole. Chapitre 45, verset 5, c'est au mois de septembre, donc c'est pas loin. Hein. Donc vous voyez que le Seigneur parle. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Et vous, est-ce que vous rechercheriez des grandes choses? C'est ce qu'on voudrait aujourd'hui. Hein. Des grandes choses pour le Seigneur. Ne les recherche pas. C'est très drôle parce que j'avais 17 ans quand j'ai reçu pour la première fois cette parole. Puis voilà qu'il me l'a redonnée quand j'étais près de mes 80. Car, voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Et vous savez, ne vous y trompez pas, on ne va pas au-devant de temps merveilleux. Je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Je te donnerai ta vie pour butin. Donc, tu resteras en vie dans tous les lieux où tu iras. Et vous savez, c'est vraiment merveilleux quand on y pense. Quand j'étais au Vietnam, ou au Cambodge, dans ces pays, ou en Afrique du Nord, bien, le Seigneur m'a gardé partout où j'étais, dans ces vols d'avion, où quelquefois on ne pouvait plus se poser, on ne pouvait pas se poser. Puis on nous disait qu'on allait se poser sur le vent. Puis le Seigneur intervenait. Mais on est toujours là, on se dit, est-ce que c'est le dernier moment pour moi? Mais on est dans le Seigneur et on reste dans la paix. Le Seigneur nous parle par sa parole. Je te donnerai la tabie pour buter. Ne cherche pas de grandes choses. Sois fidèle. Alors, c'est bien ce que l'apôtre nous montre. Verset 3. Les préceptes donc qu'il a donnés, il les a donnés de la part du Seigneur Jésus. Et si je ne vous parle pas de la part du Seigneur Jésus, il me retranchera. Ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut? C'est votre sanctification, votre mise à part. Vous êtes mis à part, sanctifié, mis à part. Dans ce monde, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Pour quelle raison? À qui appartient notre corps? Il appartient au Seigneur. Est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous devez vous rappeler de cela. Alors, je n'ai pas le droit de disposer de mon corps selon les passions du monde, selon ce qui se dit dans le monde, selon ce qui se fait dans le monde. On est dans le monde, c'est vrai, et le monde est à toutes ses convoitises, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, c'est cela qui est dans le monde. Alors, qu'est-ce que nous suivons? Est-ce que nous allons suivre ce que le monde suit ou bien est-ce que nous allons être différents parce que nous appartenons à Dieu? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu est saint et il veut que ses enfants soient saints. Nous participons à sa sainteté. Et c'est que ce que nous nous abstenions de la débauche. Une autre version plus littérale dit de la fornication. Mais on n'ose plus mettre ce mot fornication. Et un grand professeur m'a dit, mais fornication, ce n'est pas ce qu'on entend. Et il disait que, et c'est vrai, que la fornication, c'était les prostituées romaines. À Rome, il y avait des prostituées qui recevaient sous des chambres voûtées. Et c'était ça, la fornication. C'était du temps de Rome, hein, pour les prostituées de Rome. Mais aujourd'hui, non, non, c'est pas fornication, ça. Et alors, j'ai pris le dictionnaire, le petit, pour vous montrer, hein, le petit Robert, c'est quand même assez récent, assez moderne. Eh bien, dans le petit Robert, est-ce qu'il y a encore fornication? Hein? Fornication. Prostituées. Les prostituées se tenant à Rome dans les chambres voûtées. Ah, on aime bien ça. Hein? C'est pour Rome. Vous. Mais ensuite, bibliquement, péché de la chair. Relation charnelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées ou liées par des vœux. C'est le petit Robert qui vous dit ça. Alors ça, vous le croyez, le petit Robert? Mais la parole, il faut enlever le mot fornication, ça choque. Il n'y a plus de fornication. Quand on n'ose plus dire à des jeunes qui vivent à côté, mais vous forniquez, vous êtes dans la fornication. Ah non, non, non. Vous jugez, puis vous êtes arriéré. Il n'y a que le pape qui peut dire ça, mais moi je ne suis pas le pape. Vous savez, le pape dit encore certaines vérités que les autres n'osent plus dire. Il faut savoir distinguer aussi. Alors, regardez, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Bon, on aime mieux la débauche, hein. La débauche, qu'est-ce que c'est? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font qui? Les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Alors, les gens qui ne connaissent pas Dieu, on peut comprendre qu'ils fassent tout cela. Comprenez-vous? Mais quand on admet cela dans les églises, et dans les églises dites évangéliques, parce qu'on veut garder son monde, misère! Pourquoi est-ce que vous voulez garder le monde dans les églises? Il faudrait peut-être vider les églises pour qu'elles puissent se remplir de nouveaux convertis. Parce qu'il y en a beaucoup. Ça changerait à quoi d'aller dans l'église? Ils sont tous pareils. Voyez-vous, nous voulons laisser la parole nous instruire, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires aussi, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, dans sa première visite, et c'était la seule, eh bien, il a dit ces choses, et il a attesté cela, et il trouve bon de leur écrire encore cela. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre verset où il est dit qu'on est appelé à quelque chose dans cet épître? On est appelé à quoi? À son propre royaume et à sa propre gloire. Alors, si vous vous souvenez de cela, Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à son propre royaume et à sa propre gloire. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, à marcher donc d'une manière séparée, digne du Seigneur. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais qui est-ce qu'on rejette? Mais Dieu. Eh bien, en 1995, C'est Dieu qu'on rejette. Et c'est quelque chose de terrible. Dieu qui nous a aussi donné son esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit n'est pas contristé par tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit au nom du Seigneur et qui ne correspond pas? Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous voyez, il a dû leur parler très fortement, mais en même temps, il aime à souligner le bien qu'il peut trouver en eux. Pour l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de qui? Il ne dit pas de lui, hein. Vous avez appris de Dieu parce qu'ils constatent qu'ils ont une vie personnelle avec Dieu. Et ce que nous désirons pour chacun de vous, c'est que vous ayez une vie personnelle avec Dieu. Parce que si vous avez une vie personnelle avec Dieu, vous n'aurez plus besoin de personne. Comprenez-vous? Et c'est à cette liberté-là que le Seigneur voudrait nous amener. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Quand on vit avec le Seigneur, il verse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est aussi ce que vous faites. Il les exhorte à s'aimer les uns les autres, mais il leur dit en même temps, c'est ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'arrêt. Nous devons aller de progrès en progrès et ne pas être satisfait, se regardant le nombril, ben, il n'y en a pas comme nous. Et s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Et nous devons mettre notre honneur à vivre dans l'agitation? Non. Parce que vous avez vu, quand on vit dans l'agitation, on tue. Parce qu'on est trop fatigué. On est au Seigneur, mais on tue quand même. Alors, je vous l'ai dit cet après-midi, cet accident. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Ne nous mêlons pas toujours des affaires des autres. Et à travailler de vos mains. Est-ce qu'il encourage la paresse? Parce que le Seigneur vient, on ne fait plus rien? Non, on travaille. À travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Je me souviens toujours d'avoir été très édifié par un pasteur qui avait son salaire régulier en France. Il était professeur de théologie, il était un de mes amis, et un jour, il y a eu un conflit dans son église, et puis, il a voulu être fidèle, on l'a mis dehors, et on lui a coupé les vivres. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout en ayant tous les titres. Il a travaillé de ses mains. Il a continué d'évangéliser. Il m'a souvent demandé d'aller prêcher dans sa salle. Il a continué. Il a, ayant tous ses titres, il a travaillé de ses mains. Il n'a été à la charge de personne. Parce qu'il avait une vocation. C'est Dieu vraiment qui l'avait appelé. Et lui, il avait pu faire des études que d'autres n'ont pas pu faire. Mais lui, il les avait fait. Eh bien, ayant tous ses titres, il n'a pas dit, eh bien, je vais envoyer une lettre pour dire, est-ce que tel comité pourrait me soutenir, comme on l'entend aujourd'hui? Bien non. Il a dit, mais je travaillerai de mes mains. Paul l'a fait. Et c'est tellement beau, n'est-ce pas, quand la parole a de l'autorité sur un cœur, c'est pas une question matérielle qui va nous lier. C'est une question spirituelle. Et le Seigneur n'abandonne pas ce qu'il a appelé. en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et voyez-vous, je pensais, en relisant ce texte, à mon père, dont je vous ai parlé, qui attendait le Seigneur, et quand on lui disait, oui, mais monsieur Racine, si le Seigneur ne revient pas dans votre vie, et que vous deviez mourir, pour mourir, je n'ai besoin de personne. Il disait ça d'un ton un petit peu irrité, parce qu'il était déçu de voir qu'on ne se réjouissait pas de penser que le Seigneur pouvait venir au cours de notre existence, sans qu'on ait à passer par la mort. Mais si on doit passer par la mort, on sait par l'Écriture que les morts en Christ ressusciteront, premièrement, c'est ce que nous allons voir demain, et que nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. De sorte qu'il n'y a pas de problème. Alors, juste ces questions. Qu'est-ce qui donnait du poids aux exhortations pratiques que Paul adressait aux Thessaloniciens? Est-ce qu'il y a un groupe qui va répondre?
Mes bien-aimés, encore une fois, j'ai la joie de vous saluer dans le Seigneur. Celui qui nous a accueillis le premier soir par cette merveilleuse parole que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et vous savez, cette parole, elle est pour tous les jours. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que si nous croyons les promesses de Dieu, nous pouvons, comme nous l'avons souligné, croire celle de celui qui nous a fait connaître Dieu, son Fils unique, qui est lui-même Dieu béni éternellement. Et si hier, nous avons rappelé qu'aujourd'hui, dans nos corps mortels, dans nos corps de chair limités, nous ne voyons encore qu'au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, nous nous sommes réjouis en pensant que la promesse du Seigneur, qu'il reviendra, allait changer toutes choses. Car alors, en un instant, en un clin d'œil, quand nous le verrons face à face, ce ne sera plus d'une manière obscure. Et ce qui sera extraordinaire, c'est que non seulement nous connaîtrons comme nous avons été connus, mais en le voyant tel qu'il est, dit l'apôtre Jean, nous lui serons rendus semblables. Ne trouvez-vous pas que c'est merveilleux? La venue du Seigneur pour ravir les siens, va nous rendre semblables à lui. En attendant, quand nous le contemplons, nous sommes déjà transformés en la même image. Oh, alors maintenant, en l'attendant que s'accomplisse sa promesse, mais qu'est-ce qui nous reste? Et ce matin, tôt, le Seigneur m'a montré bien, il vous reste les trois vertus chrétiennes. La foi, cette foi que Paul a prêchée aux Thessaloniciens et qui a transformé ses vies. Et qu'est-ce que c'est que cette foi? C'est croire non pas que Dieu existe, mais c'est croire ce que Dieu nous dit, c'est de prendre sa parole au sérieux. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de connaître cette parole. Et pour la connaître, il faut la lire. Et il faut la lire pas seulement dans des grandes occasions, mais il faut la lire par besoin, il faut la lire quotidiennement, comme on a besoin de se nourrir. Notre âme, notre esprit ont besoin d'une nourriture spirituelle. Alors, cette parole, nous la lisons et nous la croyons. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voulez-vous la foi? Lisez la parole. Et en lisant la parole, eh bien, vous serez amené par la puissance du Saint-Esprit à la croire. Et vous emparant de ces paroles, vous vous écrirez, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui arrive quand on commence à lire la parole. C'est vrai. On n'a plus les opinions des autres, mais on a la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est véritable. Elle ne peut pas nous mentir. Le menteur, c'est Satan, le père du doute, le prince du mensonge. Et nous ne voulons plus de doute. Nous voulons toujours revenir au Seigneur et confesser le doute comme étant un péché. Douter de Dieu, douter de son amour. Non. Nous voulons simplement reconnaître notre faiblesse, nous en humilier et nous jeter éperdument dans ses bras. Nous croyons ce que Dieu nous dit. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste maintenant, en attendant qu'il vienne? La foi en sa promesse. Et puis, l'espérance, cette merveilleuse espérance, car, comme nous allons le développer, quand nous considérons ce que sera sa venue, cette résurrection de tous nos bien-aimés qui nous ont devancés et que nous retrouverons sur les nuées du ciel, étant nous-mêmes enlevés avec eux pour être introduits dans les aimables demeures de cette maison du Père, pour y être accueillis et pour être au pied de ce Père, faisant partie de la famille de Dieu, quelque chose de merveilleux. Et tout ce qui nous attend, tout ce qui sera surprise pour nous, oh, nous voudrions, mes bien-aimés, que vous vous réjouissiez à la pensée que le Seigneur vient et qu'il vient bientôt, et que ce soit une espérance qui vous habite, qui demeure en vous, une espérance bienheureuse, une espérance qui soit une certitude, qui ne déçoit pas. Le Seigneur ne nous déçoit pas. Et puis, en final, eh bien, qu'est-ce qui demeure maintenant pour nous, en attendant Jésus? La foi qui croit ses paroles, l'espérance qui nous permet d'attendre, qui nous permet d'endurer la souffrance, les contradictions, parce que nous savons qu'un jour, eh bien, on en aura fini avec l'espérance, parce que nous aurons la réalité. On en aura fini avec la foi, parce que nous aurons la vue. Il ne sera plus question de croire sans voir, mais nous verrons, et puis l'espérance étant devenue une réalité, qu'est-ce qu'il restera? L'âme. Car dans l'éternité, il n'y a plus que l'âme. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est Dieu. Et nous serons pleinement en Dieu, dans la béatitude éternelle. Dieu notre Père, nous te demandons que ces vérités que Paul avait prêchées aux Thessaloniciens, cette foi qui a produit une œuvre, cette espérance qui leur a permis d'endurer les persécutions, les difficultés, cette espérance qui leur a donné la patience, la persévérance. sera devenue une réalité. Oh, remplis-nous de cette certitude et que désormais, puisque nous serons consommés dans la charité, dans l'amour, que nous puissions aimer déjà sur la terre comme toi, tu as aimé et que nos vies se résument en cet amour. L'amour dont tu nous as aimés, toi le premier, et que ce soit pour nous le premier amour, jusqu'à ce que tu viennes. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous t'adorons et nous te bénissons. Amen.
Vous avez pu vous restaurer convenablement? Que pensez-vous de la nourriture? Alors, mes amis, je voudrais non pas faire de la réclame pour la prochaine rencontre, puisque il ne reste que 3 places. Mais on a toujours une liste d'attente, car comme Arlette me le disait, cette fois-ci, il y a eu 16 cancellations. Alors, donc on peut remplacer par la liste d'attente. Et depuis 8 ans que Mme Badet s'occupe des inscriptions, eh bien là on a toujours 15 ou 16 qui cancellent. Et quelquefois c'est juste au dernier moment, quand encore on nous avertit. Mais vous comprenez, on loue 90 chambres. Mais les sœurs sont aussi assez souples, et si on a un peu plus, elles nous en donnent 95 s'il le faut, de sorte qu'il y a toujours encore une possibilité, mais à un moment donné, c'est terminé, comprenez-vous. Mais je vous le dis simplement pour ceux qui auraient ce désir de participer à la dernière retraite de cette année. Et si Dieu le veut, alors, ça va se décider dans cette matinée, nous aurons 3 retraites si on est encore sur cette terre. Ça sera la grande retraite, tous ensemble. Eh bien, on va suivre simplement ce matin le programme. Vous allez retourner dans vos chambres pour une demi-heure de méditation personnelle, puis vous rejoindrez votre groupe à 9h45, la fin des ateliers à 10h15, la collation, et à 10h30, nous nous retrouvons tous ici. Et la portion de cet épître que nous allons étudier est extraordinaire. C'est une révélation tout à fait unique qui a été donnée à l'apôtre Paul au sujet de ce fameux enlèvement des croyants, pas et de la résurrection des croyants vivants, des croyants au Seigneur, avant qu'ils n'apparaissent en gloire pour le monde et pour le juger. J'ai mis quelques questions pour votre méditation. Comment l'apôtre envisage-t-il la mort des croyants? Les réponses, vous les trouvez dans le texte même, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, mais vous pouvez, si vous avez de la mémoire, retrouver des textes, c'est vrai, qui montrent que ce n'est pas seulement Paul qui envisage la mort de cette manière quand il parle des croyants. Deuxièmement, le passage que nous étudions correspond-il au mystère dont parle Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58? Troisième question, par la révélation que Paul nous dit avoir reçue du Seigneur, pouvons-nous établir qu'il y aura à sa venue une résurrection d'entre les morts? Et là, je crois que bien des versions n'ont pas été fidèles. On parle toujours de la résurrection des morts, mais littéralement dans le texte, il y a une résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que tous ne ressuscitent pas. Il y a une résurrection d'entre les morts, puis après, à la fin, la résurrection des morts. Mais dans le Credo, on parle toujours qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts, comme s'il y avait, comme si tout se faisait ensemble. Or, quand vous prenez tous les textes de l'Écriture, eh bien, vous voyez qu'il y a des différences. Il y a deux résurrections. Résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. Alors, nous aurons l'occasion d'en parler. Où le Seigneur va-t-il conduire ceux qu'il aura rassemblés dans les airs? Connaissez-vous d'autres enlèvements dans les Écritures? Est-ce une consolation pour vous d'avoir la certitude d'être toujours avec le Seigneur? C'est une expression que vous allez retrouver là. Quelle est l'espérance des authentiques enfants de la lumière? Et quelles armes ont-ils en l'attendant? Quand et pour qui la colère de Dieu se manifeste-t-elle? Alors, les textes que vous allez étudier, je les lis maintenant depuis le verset 13e. Et je vous lis là dans la version la plus littérale. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi et avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis, nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Eh bien, nous nous arrêterons là, et cet après-midi, nous terminerons par les dernières exhortations. Alors, je vous laisse entre les mains du Seigneur, dans la certitude que vous allez être bénis dans cette étude. Vous pouvez ignorer les questions, vous pouvez les étudier comme vous le voulez, et soyez en tête à tête avec le Seigneur. Dieu notre Père, nous te recommandons tous nos bien-aimés qui vont se trouver en tête à tête avec toi. Que ta présence leur devienne sensible et si réelle qu'ils puissent entendre par les oreilles du cœur ta voix, et que ce cœur se remplisse de joie, de paix et de bonheur, et que tu dissipes tous les doutes pour l'honneur de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, j'espère de tout mon cœur que vous avez passé une heure bénie dans la méditation personnelle de ce merveilleux passage des Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, au chapitre 5. Et que vous avez pu aussi déjà, dans vos ateliers, partager bien des choses, les uns avec les autres. Je vous aussi espérer que dans ces ateliers, vous avez appris à vous connaître et que des liens se sont noués entre vous, et que si vous devez vous revoir sur la terre, vous serez heureux de vous rencontrer et que vous aurez quelque chose à vous dire, peut-être Maranatha. Eh bien, maintenant, nous allons apporter le message sur ces textes. Et pour que personne ne soit frustré, si vous avez fait des trouvailles dans vos ateliers, vous avez vu que, si vous avez lu jusqu'à la page 14, après la dernière réunion où nous terminerons l'étude de cet épître à 13h30, en se rassemblant ici dans la grande salle après le dîner, on aura le dernier message, et puis je pense que vous aurez trouvé une conclusion et que vous pourrez mettre oui ou non à la réponse. Mais à la réponse de notre thème, peut-on attendre dans l'aujourd'hui de notre vie la venue du Seigneur pour les siens? Alors c'est oui ou c'est non, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à faire avec le référendum. Mais on est quand même dans l'actualité. Il faut avoir des convictions. Et alors, après cela, donc, à 14h15, il y aura un libre-échange, de sorte que vous aurez encore l'occasion de dire peut-être ce que vous avez trouvé dans vos ateliers, ou alors un message tout à fait personnel, qui précédera le culte d'adoration que nous désirons donner à notre Seigneur et à notre Sauveur, en accomplissant le désir de son cœur, car vous connaissez son désir, quand il a institué la Sainte Cène, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Est-ce que le Seigneur est digne que nous nous souvenions, pendant le temps de son absence, que nous nous souvenions de ses souffrances et de sa mort? Car c'est par sa mort que nous avons été sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par sa vie, par ses paroles seulement. Mais si le Seigneur n'était pas mort, on aurait de belles paroles. C'est pour ça, si on ne fait que méditer sur le sermon sur la montagne, eh bien, ça ne nous sauve pas. On a une morale merveilleuse, mais on est incapable d'accomplir cela. Et il fallait sa mort. De sorte que l'Église est née de sa mort et de sa résurrection. Alors, nous aimons à nous souvenir de la mort du Seigneur. Et nous célébrerons dans la simplicité apostolique ce mémorial. Personne n'est obligé d'y prendre part, c'est votre décision à vous, si vous avez le Seigneur, si sa personne est dans votre cœur. Ce n'est pas parce que vous prendrez le pain et que vous boirez à la coupe que vous aurez le Seigneur en vous, mais c'est parce que vous l'avez en vous que vous prenez le pain pour témoigner aussi réellement que vous mangez. Le Seigneur n'est plus une personne extérieure à votre vie, mais qu'il vous est devenu intérieur. Et en buvant à la coupe, vous témoignez que le sang étant la vie, le sang du Seigneur est devenu pour vous votre vie. Et parce qu'il est votre vie, eh bien, vous en témoignez publiquement. C'est un engagement que vous prenez pour vivre dans la semaine, dans les jours ouvrables, selon la volonté de Dieu, à la gloire du Seigneur. Et alors là, dans ce culte, nous aimons qu'il y ait la liberté de l'esprit, que vous puissiez exprimer au Seigneur, en quelques mots, mais je le souligne, des mots distincts, même si vous n'avez pas de barbe, ben ne parlez pas dans votre barbe, n'est-ce pas? Pensez que on voudrait pouvoir vous entendre pour pouvoir dire quoi? Amen à vos prières, n'est-ce pas? Et puis, n'ayez pas un visage triste et douloureux, mais soyez dans la joie et la reconnaissance. Et ne pensez plus à ce que vous êtes vous-même, pensez à ce que Jésus est, à ce qu'il a été pour vous. Et s'il est votre vie, eh bien votre vrai portrait, vous ne l'avez pas devant un miroir, votre miroir, vous l'avez dans le ciel. Et c'est cela qui plaît à Dieu, car Dieu vous voit dans les perfections de son Fils. Et comme le culte comprend pas seulement la louange des lèvres, mais aussi le don de nos corps, chaque fois que nous prenons la scène, c'est comme si nous livrons nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. On n'offre plus des sacrifices sanglants, mais on offre son corps en sacrifice vivant. Quand Dieu a voulu se manifester aux hommes, il a pris un corps et il est venu marchant ici-bas. Et maintenant, c'est dans nos corps que le Seigneur voudrait se glorifier dans le monde. C'est pourquoi ce n'est pas un christianisme de l'âme seulement, un christianisme intérieur, c'est un christianisme visible que le monde doit voir. Il y a des paroles qui ne passent plus sur les lèvres d'un croyant, sur les lèvres d'un saint. On n'a plus le même langage. On pouvait avoir un langage grossier, tout ce que vous voulez. On pouvait blasphémer, prendre le nom de Dieu en vain. Et je vous en supplie, hein, ne dites pas toujours mon doux, parce que ça veut dire, oh mon doux, vous prenez le nom de Dieu en vain. parce que mon doux, c'est mon Dieu, au fond. Alors, faisons attention à ces expressions qui ne doivent pas passer sur nos lèvres. Et non seulement c'est un sacrifice des lèvres, c'est un sacrifice de notre corps, mais il y a aussi la part de nos biens, il y a des nécessiteux, des gens qui ont besoin d'être aidés, et c'est pourquoi dans le culte, il est parlé d'une offrande. Ce n'est pas une collecte, mais une offrande. Et c'est quelque chose d'absolument volontaire. On ne passera pas un sac pour vous obliger d'y mettre quelque chose. Il y aura simplement, comme vous le savez, une boîte, non pas pour nous, mais une boîte là. Et si vous avez à cœur de faire une offrande, eh bien, déposez votre offrande là pour le Seigneur. Et ce sont des sacrifices auxquels le Seigneur prend plaisir. Voilà, nous avons dit ces quelque chose, ces quelques mots, pour que vous sachiez ce qui vous attend cet après-midi. Et si vous avez un texte qui vous a fait du bien, bien, vous pouvez le lire, vous pouvez le dire, mais n'attendez pas les dernières minutes parce que nous tiendrons l'horaire. Hein. Et à 4 heures, tout sera terminé et nous partirons. Alors que le Seigneur dirige cette fin de journée et que vous ayez la réponse à ce grand thème. Et je vous donnerai cet après-midi la confirmation de ce que m'aura dit la sœur que je dois rencontrer à 1 heure au sujet des dates de la possibilité que nous aurions de nous réunir encore ici. Et croyez-le, nous ne faisons pas de propagande. Ceux qui désirent étudier la parole et se perfectionner dans le Seigneur sont cordialement invités, mais nous n'acceptons pas ce qui est sectaire. Et nous ne voulons pas faire de propagande pour une ou une autre église. Nous sommes ici et dans cette maison, bien c'est une maison catholique, mais nous sommes heureux de leur gentillesse et qu'ils nous accueillent dans cette maison et nous bénéficions de cette œuvre de Marguerite Duville qui est bienheureuse et auprès du Seigneur. Car quand on lit un peu ce qui s'est passé en elle et sa foi en ce Père d'amour, de justice, eh bien on sait qu'elle est notre sœur bien-aimé en Christ. À la fin de cette heure, je donnerai à Josapha, ou tu aimerais le dire maintenant? Après, oui. Il a quelques remarques à vous faire concernant le départ de vos chambres. Alors, nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te demander maintenant que nous puissions nous plonger totalement, nous immerger dans cette révélation merveilleuse qui est devant nous et que l'apôtre Paul a reçue de toi pour nous la communiquer. Et nous savons que un jour tout cela sera devenu réalité, car comme tu l'as dit à travers toute ta parole, tu ne laisses tomber aucune de tes promesses. Aucune de tes paroles. Tout a eu son accomplissement. Et tout ce qui était annoncé au sujet de ta première venue s'est accompli littéralement. Donne-nous d'être assez sages pour ne pas donner des interprétations spirituelles là où tout est réalité. Et que nous puissions jouir bientôt, très bientôt, de cette réalité. En Jésus. Amen. Alors, nous reprenons, nous partons du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, écrit Paul, donc aux Thessaloniciens, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Et alors, là, nous devons nous demander qu'est-ce que le Seigneur veut dire par son apôtre quand il parle de ceux qui dorment. Et pour bien le comprendre, nous n'avons pas besoin de quitter ce chapitre, mais nous voudrions des confirmations. Et ces confirmations, nous les avons. Est-ce que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, a employé cette expression pour des personnes qui étaient mortes? Oui. Il l'a employé pour Lazare. Il a dit, Lazare, notre ami, s'est endormi. Alors les disciples ont dit, bien s'il dort, alors c'est qu'il va mieux. Mais il parlait vraiment de la mort. Et il leur a dit, Lazare est mort. Mais déjà, avec la jeune fille de qui? De Jaïrus, au chapitre 5 de Marc, vous pouvez trouver aussi cette expression, quand tout le monde pleurait et criait dans la maison de Jaïrus, le Seigneur a dit, elle n'est pas morte. Elle dort et je viens pour la réveiller. Donc, pour les croyants, la mort est comparée dans le Nouveau Testament à un sommeil. On pourrait dire aussi, qu'on trouve déjà dans Daniel au chapitre 12, la mort comparée à un sommeil. Et la résurrection à un réveil. Maintenant, on peut aussi prendre un autre exemple d'un homme qui mourait sur la rue et dont il est dit que quand il a exhalé son dernier soupir, il s'est endormi. C'est qui? Chapitre 7 des Actes. C'est Étienne, le premier martyr chrétien, eh bien, il s'endormit, chapitre 7 des Actes, verset 60. S'étant mis à genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et quand il lui dit cela, il s'endormit. Et seul consentait à sa mort. Il s'endormit. De sorte que vous voyez, si vous prenez la parole au mot, bien, vous savez que votre mort, si vous devez passer par la mort, peut se passer aussi comme un sommeil, comme en entrant dans un sommeil. Et puis, si vous lisez le psaume 23e qu'on aime et que j'ai souvent entendu sur les lèvres d'un mourant, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur n'est pas de l'autre côté, il est déjà avec nous. On a marché avec lui, et puis, tout d'un coup, il nous dit, bien, passons à l'autre rive. Il ne nous attend pas sur l'autre rive, hein. Il est avec nous et il nous fait passer à l'autre rive. Et quand on arrive de l'autre côté, les portails éternels s'ouvrent pour laisser entrer Jésus et l'âme et qu'il a racheté. Voilà comment nous pouvons envisager la mort. Nous n'avons rien à craindre. C'est un sommeil. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alors c'est bien de la mort quand même que le Seigneur, que Paul parle, et les incrédules, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ben, la mort pour eux, c'est souvent terrifiant. Je ne veux pas vous parler de la mort de Voltaire qui a nié Dieu toute sa vie et qui a eu une fin terrifiante. Mais laissons cela de côté, et parlons de ceux qui ont vraiment une espérance. Verset 14. Si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. C'est là la traduction la plus exacte. Si nous croyons que Jésus mourut, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Oui, n'est-ce pas? Et qu'il est ressuscité? Vous le croyez aussi? Et vous savez, je me souviens, dans une église romaine, quand je lisais cela devant un auditoire entièrement catholique, c'était quelque chose de merveilleux quand justement on leur permettait de nouveau de lire la Bible. C'était sous le règne de Paul VI où on a eu des occasions fantastiques. Eh bien, ils avaient leur Bible et ils découvraient pour la première fois ces textes merveilleux. Si nous croyons que Jésus mourut, est-ce que vous le croyez que Jésus est mort? Parce que je ne veux pas qu'ils pensent que c'est un protestant qui vient leur dire cela. Non, c'est la parole de Dieu. Alors on voyait les signes de tête, oui, ils étaient d'accord. Et qu'il est ressuscité, est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Eh bien, ça faisait plaisir de voir aussi que, oui, il y avait un assentiment. Alors, croyez aussi. De même aussi, avec lui, donc avec Jésus ressuscité, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Ce sera l'œuvre de qui la résurrection? L'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Et alors là, Paul nous fait cette merveilleuse révélation, parce que comme vous le savez, quand on a lu toute l'épître, hein, les Thessaloniciens avaient été enseignés que Jésus reviendrait. Et s'il s'était converti, détourné des idoles vers le Dieu vivant, c'était pour attendre des cieux son Fils. Il le leur avait présenté comme étant dans les cieux, intercédant auprès du Père pour eux, mais prêt aussi à revenir. Alors, on le servait sur la terre en l'attendant. Et quelle était leur espérance? D'aller à la rencontre du Seigneur qui reviendrait des cieux. Ils avaient maintenant un rendez-vous. Ils savaient qu'ils n'étaient plus de la terre, mais bourgeois des cieux. Alors, comme l'enlèvement ne se faisait pas, ce retour ne se faisait pas dans l'immédiat, il y a de ces croyants qui mouraient. Et alors, ceux qui restaient, qui les avaient aimés, se demandaient si ces croyants qui étaient morts allaient manquer quelque chose. Et l'apôtre Paul les rassure en leur disant non, ils vont pas manquer quelque chose parce que c'est eux qui ressusciteront premièrement. Alors voyez-vous, ce que vous devez croire, c'est ce que la parole vous enseigne. Car nous vous disons ceci. Par quelle autorité? Par la parole du Seigneur. Que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, il se met aussi dans le nombre des vivants. Tant qu'il est vivant, ça se peut que le Seigneur vienne dans sa vie. Nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis, donc les morts en Christ. Car le Seigneur lui-même, que c'est beau, il ne laisse pas cette charge à un autre. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange ou à la voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Donc, la venue du Seigneur doit être pour les croyants une consolation et non un sujet de terreur, un sujet de peur.
Et je voudrais que le Saint-Esprit vous convainque que la venue du Seigneur, c'est vraiment une bienheureuse espérance. Et c'est ainsi que Tite, un serviteur de Dieu, nous trouvons cela dans l'épître que Paul, le même apôtre, donc qui a écrit la lettre aux Thessaloniciens, il écrit à son enfant dans la foi, Tite, au verset 11 du chapitre 2, « La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, et je veux croire que vous avez reçu cette grâce, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement, pieusement. » C'est le secret du bonheur, la sobriété pour nous-mêmes, la justice dans nos relations avec les autres, la piété dans nos rapports avec Dieu. La piété, c'est la relation qu'on entretient avec Dieu. Mais c'est une relation constante. Ce n'est pas une relation occasionnelle. C'est une relation constante. En attendant la bienheureuse espérance, verset 13. C'est une bienheureuse espérance, puis ensuite il est dit, et l'apparition. Il y a donc deux choses. La bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement, puis viendra ensuite l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Alors, revenons à notre texte des Thessaloniciens et cherchons vraiment à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Donc, le Seigneur lui-même, il revient du ciel lui-même, avec un cri de commandement. Alors, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois choses qui sont nommées, le cri de commandement, la voix de l'archange, et puis la trompette de Dieu. Alors nous n'allons pas nous laisser conduire par notre imagination. Un cri de commandement, mais ce mot indique une relation entre celui qui appelle et ceux qui sont appelés. Un cri de commandement, c'est ça nous indique qu'il y a une relation entre celui qui appelle, c'est le Seigneur, et ceux qui sont appelés. Par exemple, l'ordre donné par un commandant à ses soldats, c'est un cri donné seulement à ceux auxquels il s'adresse et dont la portée ne sera pas connue par d'autres, tous. Ne sont pas appelés, ce sont ceux qui sont en relation avec le commandant qui les appelle. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Les gens du monde n'entendront pas ce cri de commandement. Ce sont ceux qui sont appelés. Et la voix de l'archange, alors on peut rechercher dans les Corinthiens, au chapitre 15, s'il y a un autre passage qui pourrait nous aider et nous éclairer. Prenez le chapitre 15, je pense que vous l'avez lu, au verset 51 de la première épître aux Corinthiens. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous. » Donc, on retrouve les mêmes termes. « Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Mais alors, justement, comme il est parlé de trompette dans l'Apocalypse, et qu'il y a la septième trompette, c'est pas de ça qu'il est question. C'est pas la septième trompette de l'Apocalypse, mais c'est une coutume romaine dont il est question ici, et la dernière trompette, c'était le signal du départ. Il y avait le cri de commandement pour ceux qui devaient partir, qui leur était adressé, et puis, alors, il y avait la dernière trompette, il y avait trois trompettes, et la dernière trompette, c'était le départ, on partait. Mais ne liez pas la dernière trompette à la septième trompette de l'Apocalypse, parce que là, alors, vous foirerez. Il faut laisser les textes dans leur contexte. La dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles. À cette trompette, les morts seront ressuscités. Mais est-ce que c'est tous les morts? Non, c'est seulement ceux qui croient. Il n'y a pas qu'une résurrection à la fin, il y a deux résurrections. La première résurrection, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. C'est une résurrection pour la vie. Tandis que la dernière résurrection que vous avez dans l'Apocalypse, c'est une résurrection pour la mort éternelle. Et vous avez cela à travers toutes les Écritures. Et la confusion qui existe dans beaucoup d'âmes vient uniquement de cette méconnaissance des Saintes Écritures. Il y a toute une propagande, et je ne suis pas contre, pour une lecture dévotionnelle de l'Écriture. Alors vous lisez votre petite portion tous les jours, puis vous vous dites, ben j'ai lu la parole, il ne m'arrivera rien, n'est-ce pas, j'aurai pas de tuiles sur la tête aujourd'hui, j'ai lu ma portion. Hein. Et puis, oui, ça vous fait du bien, mais vous n'aurez jamais une connaissance réelle de la parole, des grandes lignes de la Bible, si vous restez à la méditation dévotionnelle. Il faut lire la parole depuis la première page à la dernière. Quand vous lisez une lettre, et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer, on l'a lu le premier jour du premier verset jusqu'à la fin. J'avais un grand-père, je crois vous l'avoir déjà dit, s'est converti à 70 ans. Il était buveur, il était pas très gentil avec ma grand-mère, et quand il avait bu, c'était pas très drôle, et c'était un fumeur invétéré. Il s'endormait en brûlant ses draps. Il a risqué de mettre le feu à la grand-mère. Alors, mais oui, mais c'était, et puis alors, il avait tous ses amis du bistrot, toutes ses vieilles habitudes, et ma grand-mère, sur les genoux desquels je me trouvais bien souvent, me disait, tu sais, elle m'appelait tonton, parce que c'était le diminutif de Gaston, tu sais, tonton, grand-papa sera sauvé. Elle en avait la certitude. Elle était presque aveugle, puis elle est décédée. Elle n'était pas sauvée. Il s'est converti le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement de ma grand-mère, eh bien, mon grand-père s'est donné au Seigneur, 70 ans. Et sans signer ce qu'on appelle la tempérance ou l'abstinence, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer. Parce qu'il avait compris que ça, c'était du passé. Il s'est mis à lire la parole. Je vois encore sur son fauteuil, il lisait la parole. Et vous savez combien de temps il a vécu encore? Il est mort à 90 ans. N'est-ce pas merveilleux? Il a vécu encore 20 ans en se nourrissant de la parole. Puis, je lui disais, tu en es où? Eh bien, j'en suis ici, puis après je recommence. Et il a lu la parole. Oh, quel souvenir j'ai de cette puissance du Seigneur. Et puis, je lui posais quand même des questions. Je dis, mais comment est-ce que tu as pu te libérer de toute cette compagnie de gens qui aimaient, on l'aimait bien parce que c'était un brave homme autrement. Mais dans les moments, il pouvait ne plus boire pendant 6 mois, mais après quand il avait bu, hein, puis alors. C'était pas drôle. Eh bien, il a été libéré complètement Alors on a tous dit, il s'appelait Amédée, mon grand-père. Alors on a tous dit, le père Amédée, il va mourir. Car quand on coupe comme ça, hein, c'est la mort. Il a vécu 20 ans. N'écoutez pas ce qu'on vient vous dire. N'écoutez pas cela. Croyez que le Seigneur a la puissance de vous libérer. Eh bien, il a été libéré. Mais je lui disais, grand-papa, tu n'as pas eu quand même des terribles tentations. Il disait, oui, c'est quand je passais devant l'hôtel, hein, j'avais soif. L'hôtel du village, hein, le bistrot. J'avais soif. Et je sais que si j'étais resté dans les parages, j'y serais entré. Alors je fuyais. J'allais plus loin. Savoir rompre, fuir, pour poursuivre. N'est-ce pas? Eh bien, c'est beau d'avoir ces exemples qui nous montre la puissance de Dieu. Et il a fait entrer la puissance de Dieu dans sa vie. Et j'ai eu le privilège de l'assister dans sa mort. On m'a téléphoné, j'étais bien loin de là, mais j'ai pu arriver et recueillir son dernier soupir. Mais c'était quelque chose de merveilleux. Tout à coup, il s'est levé dans son lit, son visage s'est mis à rayonner, puis son corps est retombé. De sorte que le pasteur qui a fait l'enterrement, il a parlé d'un lumineux départ. N'est-ce pas? Et vous voyez, il n'est pas parti avec tous ses péchés. C'était loin. Et il allait vers son sauveur. Je n'oublierai jamais cette face radieuse, lumineuse. Moi, je ne voyais pas, mais lui voyait. Nous n'avons plus à craindre la mort. Il savait où il allait. Et de penser que nous allons les revoir, quand le Seigneur viendra, bien, il est dit, en un instant, en un clin d'œil. Alors nous lisions donc dans 1 Corinthiens 15. Je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, donc le dernier signal, car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serons changés. Et un autre verset dans Philippiens, je vous le cite, vous le connaissez bien, qui montre comment ce changement aura lieu quand le Seigneur viendra. Nous attendons le Seigneur du ciel. Et il est dit au verset 20 du chapitre 3 des Philippiens, « Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. » Mais vous dites, mais est-ce qu'il n'est pas déjà venu comme sauveur? Oui, pour sauver nos âmes. Mais il revient pour sauver nos corps, parce qu'il s'est acquis à la croix aussi la rédemption de nos corps. Il revient comme sauveur. Nous ne sommes sauvés qu'en espérance, parce que nous sommes encore dans des corps de chair. Mais la chair et le sang ne pouvant pas hériter du royaume de Dieu, il faut que nous soyons transformés. Il transformera le corps de notre humiliation, de notre abaissement, en la conformité du corps de sa gloire. Quel est le corps que vous aurez quand vous serez transformés? Un corps semblable à celui de Jésus ressuscité, qui n'est plus soumis aux lois de la matière, comme nous l'avons vu dans la résurrection de Jésus, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Eh bien voilà, nos corps seront changés, finis avec nos infirmités. Car, verset 53, je reviens à 1 Corinthiens 15, car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Ce corruptible, c'est quoi? C'est les morts, les corps qui sont dans la poussière, hein, qui sont corrompus. Le corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ce sont les morts qui seront rendus incorruptibles. Et ce mortel, c'est qui? C'est nous, les vivants. Nous sommes des mortels. Hein. Et en un instant, ce corps mortel revêtira l'immortalité, on ne passera pas par la mort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel
aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ou ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus est venu pour ôter le péché, donc il n'y a plus d'aiguillon pour le croyant. Et la puissance du péché, c'est la loi, et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est à la lumière de ces passages que nous continuons l'étude de cette épître. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Est-ce que Jésus a confirmé dans l'Évangile ce qu'il a dit plus tard à l'apôtre Paul? Est-ce que Jésus a parlé de son retour? Oui. Avant de partir, de quitter les siens, il a dit « Je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi. » Alors, vous partez du chapitre 14 de Jean, où vous entendez le Seigneur faire ses promesses qu'il reviendra. Et il vous dit bien, si vous croyez en Dieu, si vous croyez les promesses de Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il nous dit très bien où il va nous mener. Il y a plusieurs demeures, je vais vous préparer une place. Et dans le chapitre 17 de Jean, il dit, Père, je veux que quant à ce que tu m'as donné, qu'ils y soient aussi avec moi. Que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Et quand le Seigneur a connu son enlèvement, sa montée au ciel, c'est un de ces enlèvements dont je parle dans ces questions. Est-ce que vous connaissez d'autres enlèvements? L'enlèvement d'Enoch, d'abord. Il a été enlevé quand? Quand il marchait avec Dieu. Il avait vécu 65 ans et puis ensuite, là il y a eu un changement, il s'est converti certainement, et il a marché ensuite 300 ans avec Dieu. Et puis il ne fut plus trouvé. Alors que dans le chapitre 5 de la Genèse, il est parlé de tous ces hommes de Dieu, ces premiers hommes, ces patriarches, et il est toujours dit... Ils vécurent tant d'années et il mourut, et il mourut, et il mourut. Oui, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Mais d'Enoch, il ne fut plus car Dieu le prit. Et alors, comment aura lieu cet enlèvement? Eh bien, il est parlé de la voix de l'archange. Qui est l'archange? Le chef des anges. Et alors, comme il est dit aussi que chaque personne a son ange, il y aura certainement une manifestation angélique dans la création pour cet enlèvement à la voix de l'archange. Mais nous n'allons pas plus loin, parce que je suis navré, quand je lis des livres sur ces questions-là, on nous dit, concernant l'enlèvement, maintenant laissons aller notre imagination. Et alors, comme on connaît quand même certaines... vérité, et qu'on sait que la première venue n'est pas vue, n'est pas visible du monde incrédule. Elle est vue seulement par les rachetés du Seigneur. Mais alors, on dit, ben, s'ils vont être enlevés, laissons courir notre imagination. Vous êtes au volant de votre auto, l'enlèvement se fait. Alors l'auto continue et c'est la catastrophe, vous passez le feu rouge, il n'y a plus de conducteurs. C'est comme ces deux petits enfants là qui ont voulu aller chez McDonald's, c'était dans les journaux, n'est-ce pas? Et ils arrivent vers un poste d'essence, puis on ne voit pas de conducteur, hein, mais il y a deux petits gosses qui sont là, dedans. Alors, il n'est pas question de laisser courir notre imagination. Ou bien on vous dit, il y a un pilote d'avion qui est un enfant de Dieu. Il est enlevé. Comment ça continue? pour l'avion. Alors, donc, ce serait l'enlèvement des saints, ce serait une catastrophe mondiale. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, ne laissez pas courir votre imagination. Il ne nous a rien dit de ça. Mais il a prévu un plan. Alors là, vous pouvez méditer, prier, un cri de commandement. Donc, c'est un premier avertissement. Tu as appelé. Tu as le temps d'arrêter ta voiture. Un cri de commandement. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, à la voix de l'archange, à la trompette de Dieu, tout à coup, viens. On a un autre corps. Mais le monde ne voit pas cela. Alors vous dites, oui, mais il est dit que quand le Seigneur reviendra, tout œil le verra. Oui, c'est vrai, mais c'est à sa manifestation en gloire. Mais il vient d'abord pour les siens quand il a été ressuscité. Est-ce que tout œil l'a vu? Il s'est montré aux siens. Quand il revient d'abord pour les siens. Et c'est l'espérance bienheureuse des croyants. Oh, je voudrais que ça entre dans votre cœur pour que ce soit une réalité pour vous. Parce que vous pouvez être de ceux qui seront vivants à sa venue. Mais si même vous deviez mourir, eh bien, vous êtes dans le Seigneur et vous n'envisagez plus la mort comme une catastrophe. Hein? Mais vous dites au Seigneur, eh bien, je m'endormirai en toi. Et vous avez le droit de lui demander cela, n'est-ce pas? De vous endormir en lui. Mais ce n'est pas la mort en elle-même que vous attendez, parce que, je le répète, la mort n'est pas une espérance. La mort ne fait pas partie de l'espérance chrétienne. C'est la venue du Seigneur qui est notre espérance. Et ce n'est pas de mourir qui est une espérance, c'est d'aller vers le Seigneur. Mais si nous devons mourir, eh bien nous savons que nous ne manquerons rien quand même, puisque les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, est-ce que le Seigneur a parlé de ces résurrections? Est-ce que vous croyez à la résurrection? Et dans la résurrection, parce que le credo que tout le monde connaît, il ne dit pas grand-chose, il dit il reviendra pour ressusciter les vivants, les morts, hein, simplement ça. Mais entre la résurrection des justes, pardon, et des injustes, eh bien, il y a tout un temps. Prenez dans Jean 5, quand Jésus parle de la résurrection, au verset 24, « en vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. » Est-ce qu'il l'aura ou qu'il l'a? Il l'a. C'est une résurrection spirituelle. Il ne vient pas en jugement. Donc, pour les incrédules, il dit « après la mort, suit le jugement », mais là, il ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort, là c'est la mort spirituelle, à la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient, elle est venue maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. On est mort spirituellement, mais si vous avez entendu sa parole, et que vous l'avez reçue, alors vous avez la vie éternelle. Vous êtes devenus vivants pour Dieu. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné autorité de juger aussi parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Parce que l'heure est venue, c'est pour la conversion des gens. La conversion est comparée à une résurrection spirituelle. Mais plus tard, l'heure vient en laquelle ceux qui sont dans les sépulcres, alors c'est qui ça? C'est les morts, hein, entendront sa voix. Et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, pour la vie éternelle. Ça, c'est la première résurrection dont on trouve d'autres passages dans l'Écriture. Et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Mais pas en même temps. Il y a deux résurrections. Il y a une résurrection de vie et une résurrection de jugement. Et alors, c'est pourquoi il est question d'une résurrection d'entre les morts. Tous les morts ne ressuscitent pas. C'est une résurrection sélective, une résurrection d'entre les morts. Et c'est à cette résurrection que Paul soupirait, si je puis parvenir à une hors résurrection, disait-il. S'il était vivant ou s'il était mort, peu importe, il savait qu'il serait enlevé. Donc il y a une résurrection de vie et une résurrection de jugement. Et dans Daniel déjà, il était annoncé cette résurrection des justes et celle des injustes. Daniel chapitre 12, dans l'Ancien Testament donc. Donc c'est une vérité claire et c'est la base du christianisme. Au verset 2, plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel, pour être un objet d'horreur éternelle. Mais ce n'est pas en même temps, n'est-ce pas ? Il y a entre ces deux résurrections, eh bien, il y a tout un espace de temps que vous trouvez dans l'Apocalypse. Alors, c'est cet ensemble de la parole qu'il faut pouvoir saisir. Et alors, on n'a plus de doute et d'inquiétude. Mais on ne se laisse pas aller à notre imagination. Donc, l'enlèvement de l'Église est comparé au lever de l'étoile du matin. Qui est-ce qui voit l'étoile du matin? Ceux qui dorment, ceux qui veillent, hein, ceux qui se tiennent debout et qui veillent, eux voient l'étoile du matin se lever. Mais l'étoile du matin, c'est le Seigneur, hein, c'est la venue du Seigneur. Pour les siens, on aurait trop à dire dans ces questions prophétiques, mais l'étoile du matin, c'est la venue du Seigneur pour les siens. Et ce sont ceux qui veillent qui voient l'étoile du matin. Et après, qu'est-ce qui se lèvera? Le soleil de justice. Après le lever de l'étoile du matin, qui annonce que le soleil va paraître, il y aura le soleil de justice. Ça, c'est la venue du Seigneur en gloire avec les siens. Il a pris les siens d'abord, parce que quand il va se montrer à l'humanité tout entière, c'est le corps complet, dans une unité parfaite, tête, et tous les membres rachetés, réunis à son corps. Le Seigneur ne se montrera pas au monde sans avoir tous les siens, tous ses rachetés, son œuvre parfaite accomplie. Et il apparaîtra alors au monde avec les siens, et ce sera sa manifestation glorieuse, mais à ce moment-là, il vient pour juger le monde impie, qui ne l'a pas accepté comme sauveur. Ceux qui l'ont accepté comme sauveur, avant les grands jugements et la colère de Dieu qui va se manifester, ils sont enlevés, comme Noé a été introduit dans son arche avant le déluge. De sorte que, avant cette grande tribulation qui doit venir sur la terre habitée tout entière, et vous savez quand on dit dans la prière dominicale, n'est-ce pas, garde-nous de l'heure de la tentation, c'est la grande tribulation qui va venir sur la terre habitée tout entière. Mais l'Église du Christ, ce qui est son corps, ce qui lui appartient, sera enlevé avant. Vous pouvez rejeter cela. Vous aimez mieux rester sur la terre pour vivre vraiment les derniers temps, les derniers jours. Ils sont déjà pas mal avancés, les derniers jours. Il y a pas mal de difficultés. Mais ne pensez pas que ça va s'améliorer. Il y aura évidemment, comme le dit l'Écriture, on va le voir tout, dans un instant, il y aura l'apparition de l'Antichrist. Il y aura l'apparition de cet homme de péché que le monde est prêt à recevoir et qui essayera justement de donner au monde tout ce qu'il désire, la paix et la sécurité. Moi, je pense bien que l'Antichrist est déjà né, mais il n'est pas manifesté. Mais quand il sera manifesté, eh bien, il apparaîtra par la puissance de Satan. Et voyez-vous, le culte occulte, les cultes occultes, ça pullule de plus en plus, et il y a toute une préparation psychologique pour que les gens croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors ils croiront au mensonge. Et cette puissance d'erreur va déferler sur le monde. Et puis alors, la colère de Dieu va se manifester. Parce qu'à un moment donné, le Dieu Saint dit, maintenant, c'est fini. Et qui est-ce qui est le seul juge pour tous les hommes, qui est digne de juger tous les hommes? C'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va venir. Mais il revient avec les siens, et il donne aux siens de pouvoir régner avec lui. Alors, quand il nous a enlevés dans les airs, bien évidemment, ça sera quelque chose qui paraîtra certainement dans les journaux, je ne me livre pas à mon imagination, mais quand il en manquera un peu partout, il y aura de la place pour travailler, pour certains qui n'ont pas de travail, alors, on présentera ça d'une façon assez favorable, peut-être. Puis ces chrétiens, ces embêteurs, ces gens qui nous parlaient de Jésus, ils ne sont plus là. Mais en même temps, tout à coup, bien, on réalisera que la parole s'est réalisée. Et alors, ce qui est extraordinaire, est-ce que nous allons rester dans les airs? Si vous lisez toute la parole, et ça c'est dans la prochaine retraite, si nous lisons toute la parole, eh bien, nous apprenons que le Seigneur va nous conduire où? Dans la maison du Père. Alors, il y a des théories qui disent non, nous allons seulement à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme on est allé recevoir De Gaulle quand il est venu à Québec, n'est-ce pas? Il y a une délégation de Montréal qui est allée pour le recevoir, etc. Et puis, on revient ensemble. Non. Il nous enlève et il nous mène où? Chez lui, dans la maison du Père. Et pour cela, il faut échapper à la pesanteur. On ne va pas rester à flotter dans les airs. Le Seigneur nous amène dans la maison du Père et il dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Parce que tout racheté a été donné à Dieu, donné par Dieu, par le Père, au Seigneur. Et le Seigneur les présentera dans cette gloire. Et il a dit, consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. Et il n'en manquera aucun. Alors on arrive au chapitre 5, qui nous donne encore quelques détails. Mais pour vous, pour ce qui est des temps et des saisons, quant à mettre une date, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Jésus avait répondu dans les Actes, au chapitre 1er, ses disciples, parlant au ressuscité, disent à Jésus, « Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël, parce que ce sont des Juifs, et ils ont attendu le Messie qui était promis aux Juifs. Et Jésus leur répond, au verset 6, c'est la question, eux donc étant assemblés, interrogèrent Jésus, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a réservés de sa propre autorité. Et dans les évangiles, il a toujours annoncé sa venue, mais il a dit que personne ne savait le jour et l'heure. Et c'est évident, puisque ce ne sera pas le même jour, étant donné le décalage horaire, et ce ne sera pas la même heure. Hein. Alors, personne ne sait le jour et l'heure, mais il reviendra. Et il est question pour nous d'être prêts. Est-ce que ce sera le matin, est-ce que ce sera à midi, est-ce que ce sera le soir? Peu importe, pour les uns ce sera la nuit, pour les autres ce sera le jour dans ce monde que le Seigneur reviendra. C'est pourquoi il nous faut être prêts à toute heure, que nous soyons trouvés prêts. Et vous comprenez pourquoi cette vérité du retour du Seigneur sanctifie notre marche. C'est tous les jours que je désire marcher à sa gloire. Je n'ai pas à m'occuper des temps et des saisons. Car pour l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de signes spéciaux. Les signes sont donnés pour le retour en gloire du Seigneur. Et ce qui nous fait pressentir que l'enlèvement des siens est proche, c'est qu'on commence à voir quoi ? Se préparer le retour en gloire. Parce que le monde dit, ça ne peut plus durer. Hein. Les mauvais jours iront en s'accentuant. Il y aura bien cet effort de Satan qui voudrait régner et qui voudrait donner au monde tout ce qu'il désire, la paix et la sûreté. Mais c'est au moment où le monde croira, eh bien voilà, nous l'avons l'homme que nous cherchions, nous avons un homme maintenant. Mettez votre confiance en l'homme, ce sera une bête. Il est appelé la bête, cet homme qui n'a pas de relation avec Dieu, mais auquel Satan donnera toute sa puissance. Et alors, vous savez combien la bête peut être cruelle, etc. Puis il y aura le faux prophète en Israël, car Dieu va reprendre ses relations avec son peuple Israël. Est-ce qu'il avait promis que le peuple d'Israël retournerait dans ses terres? Oui. Est-ce que c'est une réalité? Oui. Mais nous arrivons à ce moment terrible que Israël, au lieu de s'attendre au Seigneur, s'attend plutôt à l'Occident qui est en train de s'unir. Cet empire romain qui doit ressusciter en quelque sorte. Et pour que être tranquille, être appuyé, il doit y avoir une alliance entre les Juifs et l'Occident. Et c'est une alliance dont il est parlé dans l'Écriture, qui est faite avec la mort. Parce que quand on s'appuie sur l'homme, bien on est trahi. Et au bout de 3 ans et demi d'alliance, l'alliance sera anéantie. Et puis, ce sera la terrible persécution des Juifs. Et les Juifs le savent, qu'ils vont au-devant de quelque chose de pire encore que ce qu'ils ont connu pendant la guerre d'Hitler. Parce que ils recevront comme roi le faux Christ. C'est Jésus lui-même qui l'a annoncé. Quand moi je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais quand il en viendra un autre en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Et nous assistons, quand on suit un peu cette histoire d'Israël, nous assistons à tout cela. Et vous savez, ne pensez pas qu'il n'y a que des évangéliques qui croient à cela. À Saint-Benoît du Lac, j'ai bien connu des pères qui allaient régulièrement en Israël et qui croyaient à la vocation d'Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël. Oui, Israël a rejeté Jésus et le Seigneur, puisque la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, elle est devenue la pierre d'angle d'un nouvel édifice qui est l'Église. Mais Dieu n'a pas abandonné Israël complètement. Il l'a mis à l'écart. 9, 10 et 11 des Romains, et vous aurez une idée des choses qui doivent se passer pour Israël. Mais nous sommes vraiment émus de voir comme tout se précipite. Et je pense qu'il y aura une accélération des événements en peu de temps. Vous avez vu ce qui s'est déjà passé? Le mur de Berlin. Et quoi encore? La Russie. Tout peut se précipiter. Il y a peu de temps. Et pour nous, surtout, il y a peu de temps pour le glorifier. Alors, nous arrivons à ces versets. Concernant le jour du Seigneur, vous savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Mais est-ce qu'il vient comme un voleur pour nous, les croyants? Non, comprenez-vous. Mais pour le monde, ce sera cela. Le monde sera surpris, comme un voleur dans la nuit les surprendra. Quand ils diront paix et sûreté, quand ils penseront nous sommes arrivés, hein, c'est à ce moment-là que le drame se passera. Alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, ils n'échapperont pas. Donc quand le Seigneur revient pour le monde, c'est pour le jugement. Juger. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, hein, c'est clair. En sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, parce que nous l'attendons, notre attente du Seigneur doit être une attente amoureuse, car vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour, mais c'est pour cela que toute cette épître nous exhorte à la sanctification. Nous ne sommes pas dans la nuit et dans les ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors là, vous pourriez prendre la parabole des 10 vierges, et nous constatons que pendant longtemps, toutes se sont endormies. Et c'est au siècle dernier qu'il y a eu un grand réveil, et qu'on a redécouvert ce retour du Seigneur qui a repris sa place. On a souvent parlé que c'est au siècle dernier qu'on a entendu le cri de minuit. Voici l'époux. Dieu a donné à des serviteurs, à des hommes de Dieu, de redécouvrir le retour du Seigneur. Et vous savez, cela va jusque dans l'Église romaine qui n'a pas ces enseignements-là, nécessairement, mais plusieurs en arrivent à reconsidérer ce que dit la parole, et quand la parole reprend son autorité, eh bien, on peut lire des choses assez extraordinaires au sujet de la parousie. La parousie est proche, il y a trois mots dans l'Écriture pour parler du retour du Seigneur. La parousie, qui est la venue pour les siens, et puis il y a l'Apocalypse, la révélation du Seigneur pour le monde, et son épiphanie, c'est le troisième mot que l'on trouve, et qui est sa manifestation en gloire. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'aimer lire la parole, pas seulement une fois, mais de la relire, et de la relire avec prière. Ainsi donc, verset 6, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous, nous sommes du jour, soyons sobres, et nous avons à revêtir quoi, la cuirasse de la foi. Hein. » C'est-à-dire, vous avez besoin de croire, c'est une véritable cuirasse. Quand les doutes viennent, eh bien, vous êtes revêtus de la cuirasse de la foi. Les dards enflammés du malin s'arrêtent sur la cuirasse. J'en suis revêtu. La foi est une cuirasse contre le doute. Est-ce qu'il vous manque la cuirasse? Ce sont les armes de Dieu. Prenez-les, elles sont à vous. La cuirasse de la foi et de l'amour, car il est dit que, à cause des iniquités du monde, l'amour de plusieurs se refroidira. Eh bien, il faut être cuirassé d'amour. Nous ne voulons pas nous laisser aller à des pensées étrangères à celle de Dieu qui est amour. Et pour casse, qu'est-ce que nous aurons? L'espérance du salut. Et ce salut, on est sauvé, mais on est sauvé en espérance. Et ce salut, c'est le salut de nos corps. C'est la délivrance de ce monde de péché. Il y a un moment donné où vous dites, on ne peut plus vivre ici. pas parce qu'on a des épreuves ou parce qu'on a faim, hein, mais parce que c'est un monde d'iniquité et d'abomination, et nous n'avons plus notre place. Comme Jésus n'avait plus sa place, on l'a crucifié. Mais ce que le Seigneur veut, il va nous prendre auprès de lui. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Prenez cela au mot. Mais à l'acquisition du salut. Le salut, nous l'avons, n'est-ce pas? Mais on en aura la pleine acquisition quand nos corps seront glorifiés. Nous avons l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous soyons en vie, hein, soit que nous dormions, là, c'est si nous mourons avant son retour, nous vivions ensemble avec lui, vous comprenez? Soit que nous veillons, si on veille c'est qu'on est en vie, hein, soit que nous dormions, on ne va rien manquer, puisque si nous sommes morts, nous serons ressuscités d'entre les morts. C'est pourquoi nous vivrons ensemble avec lui. Exhortez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, et vous avez remarqué, il dit toujours, comme vous le faites. Il est toujours positif. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui s'exhortent ainsi. Alors, dans la prochaine rencontre, nous pourrons parler de la seconde épître qui nous amènera à voir les choses qui vont arriver dans ce monde, sur cette terre. Mais ce que nous attendons pour l'Église, c'est son enlèvement auprès du Seigneur. Est-ce que c'est une bienheureuse espérance? Il revient donc pour les siens, et puis après, il revient avec les siens. Ce n'est pas deux retours, mais c'est deux phases de son retour. D'abord les siens, et puis il revient avec les siens. Ô Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu nous rendes plus familiers avec ta parole et que nous comprenions le sens de tous ces textes et que tu nous donnes ta clarté. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous croyons que par la puissance de ton esprit, si nous marchons dans la lumière, tu nous donneras plus de lumière. Qu'il en soit ainsi, et que tu nous prépares pour cet après-midi, afin que nous ayons un culte de louange, d'adoration, d'action de grâce, et que nous quittions cette maison dans la reconnaissance et dans la joie. En Jésus-Christ. Amen. Amen.